La salle se remplit petit à petit, c'est chouette parce qu'on a besoin de soutien aujourd'hui dans le cadre de cette journée, dans le cadre de cette journée de mobilisation pour soutenir notre camarade Gino et de manière plus large la plupart des militants, tous les militants antifascistes et même les activistes de par le monde. Et pour en parler plus spécifiquement de l'extrême droite et de ses aspects répressifs, avec nous aujourd'hui on est très content d'avoir deux invités pour cette table ronde, Vanessa Codaccioni qui va nous faire une analyse un peu constitutionnel, des cas d'extradition, des mandats d'arrêt européens. Pourquoi est-ce que le mandat d'arrêt européen, qu'est-ce qui différencie par exemple un mandat d'arrêt européen d'une simple extradition? Donc tu es professeur de sciences politiques à Paris 8 et de manière générale tu travailles sur la répression et sur des sujets comme l'extrême droite, le fascisme et également la solidarité vis-à-vis des militantes et des militants. Avec nous aussi aujourd'hui, Michel Ferre. Alors tu es philosophe, tu as une maison d'édition qui s'appelle Zoom Books. Tu as écrit un livre récemment qui s'appelle Producteurs et parasites, qui traite plus spécifiquement de la question du rassemblement national que tu vas nous présenter. Donc tu vas nous parler en gros de la montée de l'extrême droite au regard des analyses de ton dernier ouvrage. Et avec nous, il était déjà tout à l'heure, mais un camarade membre du comité contre l'extradition de Gino. Pour introduire, on va d'abord donner la parole à Vanessa puis Michel, et ensuite, on espère qu'il y aura des questions de votre part, ainsi qu'un échange entre vous deux. Voilà, merci à toutes et à tous.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là pour apporter mon soutien et manifester ma solidarité. Donc, on vous l'a dit, moi, je suis spécialiste de la répression des militants. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est à la fois l'histoire de la répression des militants, c'est-à-dire inscrire la répression et la criminalisation du militantisme dans le temps long, et de travailler sur des phénomènes comme, par exemple, la dépolitisation des passages à l'acte des militants, l'assimilation du militantisme au terrorisme, et donc la manière dont on traite les militants comme des terroristes, comme des délinquants ou comme des fous, puisque la pathologisation du militantisme est aussi extrêmement forte, et on pourra y revenir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de montrer pourquoi et à partir de quel moment on a décidé que l'extradition, le principe de non-extradition, c'était plus valable. Donc je vous fais pas un grand point, mais juste pour vous rappeler que la non-extradition, le principe de non-extradition fait partie du statut juridique privilégié associé aux crimes et aux délits politiques, en gros, c'est-à-dire c'est un principe qui est accordé à ceux qu'on considère comme des criminels et des délinquants politiques. Espions, comploteurs, traîtres, des gens qui ont été reconnus coupables d'intelligence avec l'ennemi, parfois d'associations de malfaiteurs, mais encore l'association de malfaiteurs, il y a toute une histoire que je vous épargne. En tout cas, quand vous êtes reconnu comme un criminel politique, c'est-à-dire comme un militant, comme quelqu'un en lutte, qui a fait quelque chose, qui a transgressé la loi, mais pour des motivations politiques, eh bien, vous avez des privilèges. Alors attention, c'est pas non plus, il ne faut pas exagérer, mais par exemple, vous pouvez avoir le statut de prisonnier politique, qui n'existe plus aussi. Vous pouvez bénéficier d'amnistie politique, qui n'existe plus. Et vous pouviez bénéficier de la non-extradition. Donc la non-extradition, en fait, elle apparaît dans la plupart des pays d'Europe occidentale et même au-delà, 19e, début du 20e siècle. Et en fait, vous le savez, s'ils ont un accord en ce sens, un État ne peut remettre à un autre État un justiciable lorsque les poursuites portent sur une infraction politique, précisément pour que son procès ou la peine en découlant ne soit pas déterminée ou influencée par des considérations politiques. Autrement dit, on veut éviter qu'un militant, une militante, soit pris dans un procès politique et des poursuites judiciaires qui soient déterminées par des motivations politiques. Vous vous en doutez, ce principe de non-extradition, il ne convient pas du tout aux gouvernements les plus répressifs, évidemment, mais de manière générale, il ne convient pas du tout aux gouvernements et aux pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics ont toujours voulu réprimer leurs ennemis politiques comme ils le veulent. Et le principe de non-extradition revient complètement sur ce principe-là, notamment lorsque les militantes et les militants traversent les frontières. On retrouve aujourd'hui des demandes d'extradition, bien évidemment dans des pays autoritaires, à tendance fasciste comme la Hongrie, mais on peut aussi penser à d'autres pays qu'on présente toujours comme des pays démocratiques, comme les États-Unis, je crois que Michel va en parler, Et je pense à l'acharnement des gouvernements américains à demander l'extradition de Edward Snowden, parce qu'il a révélé des secrets, vous le savez, la surveillance de masse dont s'étaient rendus coupables le FBI et la NSA. Mais on peut penser aussi à l'acharnement des Américains à demander l'extradition de Julian Assange, donc le fondateur de Wikileaks, qui avait révélé des crimes de guerre des Américains et de leurs alliés en Irak et en Afghanistan. Et en fait, on voit que depuis plusieurs années, aussi en Europe, se multiplient des mandats d'arrêt contre des militants, multiplication qui vient de plusieurs facteurs, une dépolitisation des crimes politiques, je vais y venir, assimilation du militantisme au terrorisme, et puis, il ne faut pas l'oublier, renforcement de l'antiterrorisme européen. L'Union européenne est la responsable d'une surcriminalisation du militantisme aujourd'hui, et c'est elle qui a voulu ce mandat d'arrêt européen, et donc qui affaiblit considérablement la capacité des militants à résister à leur répression. Donc, quelques rappels aussi. Ce principe de non-extradition pour des militantes ou des individus en lutte, il est le plus souvent remis en cause dans des contextes de guerre et surtout dans des contextes de post-conflit, quand on veut punir des vaincus. C'est le cas, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi le cas, j'avais travaillé un peu sur ça, à la fin de la guerre d'Algérie. Alors, à la fin de la guerre d'Algérie, vous avez beaucoup de membres de l'OAS, donc l'extrême droite pro-Algérie française, qui va fuir le pays. Et dans certains cas, je vous le raconterai si ça vous amuse, mais le général de Gaulle a trouvé des moyens, disons, plus musclés pour aller chercher des militaires de l'extrême droite pour les ramener en France, alors que les pays européens ne voulaient pas les extrader. Quoi qu'il en soit, la répression de l'extrême droite, parfois, peut nous renseigner aussi, même si elle est moindre, attention, que celle de l'extrême gauche, c'est pas la même répression. Répression de l'extrême droite et répression de l'extrême gauche, pour moi, ça répond pas tout à fait aux mêmes logiques. Mais il y a une période qui est très importante dans l'histoire, et pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, c'est les années 70. Pourquoi est-ce que les années 70 sont importantes ? Mais parce qu'en fait, partout dans les pays occidentaux et au-delà, eh bien, il y a une multiplication des révoltes, des mouvements sociaux d'ampleur, des luttes, et puis la radicalisation de certaines revendications et la mise en pratique de la violence révolutionnaire. Je pense par exemple aux maoïstes en France, ou en tout cas à l'émergence du gauchisme en France. Je pense à la fraction Armée Rouge en Allemagne. Je pense aux brigades internationales, brigades rouges en Italie. Je pense à l'IRA aussi, il ne faut jamais oublier la répression de l'IRA, qui est une répression très importante dont on parle peu, mais il y aurait plein de choses à dire sur la répression des Irlandais, enfin des indépendantistes, et puis l'activisme indépendantiste en Espagne. Et dans ce contexte-là, de révolte, de multiplication de la radicalité politique, eh bien, les États européens veulent récupérer leurs militants pour les poursuivre. Et donc, il y a une multiplication des demandes d'extradition, notamment qui sont faites par trois pays, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. La plupart, certaines sont refusées, mais certaines sont acceptées. Et je vais vous parler d'un cas en particulier, qui est important, en tout cas moi, qui me tient à cœur. C'est le cas de Klaus Croissant, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un avocat des membres de la RAF, donc fraction Armée Rouge, et qui avait demandé l'asile politique en France et qui est extradé par la France vers l'Allemagne en novembre 1977, dans un double contexte, un contexte de très forte répression de la fraction Armée Rouge. La fraction Armée Rouge a été extrêmement réprimée jusqu'à la torture, des formes de torture blanche avec des isolements totaux juste pour les rendre fous, en fait. Le gouvernement allemand et la répression allemande a mené des militantes et des militants au bord de la folie. D'ailleurs, certains se sont suicidés dans des conditions peut-être que vous connaissez. Donc il y a ce contexte de criminalisation extrêmement dure de la RAF, mais aussi de criminalisation des avocats de la RAF, qui ne peuvent plus exercer, qui sont poursuivis, etc. Et ça, c'est un phénomène sur lequel je vous alerte, c'est que quand il y a une criminalisation très forte d'un mouvement social ou d'un groupe militant, bien souvent, la solidarité à ces militantes et à ces militants va être aussi réprimée. C'est la criminalisation de la solidarité. Et les avocats peuvent tout à fait aussi être réprimés. On a vu ça, par exemple, à Bure. Dans les luttes à Bure, il y a l'avocat des militants de Bure qui a été pris dans une affaire d'association de malfaiteurs. Ce qui est rare, mais qui peut arriver, ça montre à quel point l'État veut réprimer à fond un mouvement social. Et cet avocat, donc Klaus Croissant, il est très, très défendu en France. Si vous regardez, il y a des articles dans Le Monde, dans l'Humain, enfin, il y a plein de gens. Et puis, il est défendu par plein d'intellectuels, et notamment par un intellectuel que vous connaissez, qui s'appelle Michel Foucault. Et Michel Foucault a écrit un texte super intéressant sur l'extradition, et justement sur l'extradition de Klaus Croissant qu'il soutenait. Le texte s'appelle, si ça vous intéresse, hein, « Va-t-on extrader Klaus Croissant ?» et c'est paru en novembre 1977 dans le Nouvel Observateur. Je vous lis quelques extraits de Michel Foucault. Par d'étranges détours, la jurisprudence récente de l'extradition, commandée en partie par le problème des fuyards de l'Est, puisque vous avez plein de gens de l'URSS qui essaient de traverser les frontières, hein, a inscrit ce droit en pointillé dans la pratique judiciaire. La justice d'un pays accepte de livrer un accusé qui a échappé à la justice d'un autre. C'est dire qu'ici et là, on reconnaît le même crime, qu'on en donne la même définition, qu'on le prend pour un universel qui n'est pas relatif à un État particulier, à un régime ou à un gouvernement. Depuis plus d'un siècle, toutes les lois, toutes les conventions sont d'accord, extradition pour des faits de droit commun, mais pas en matière politique. Ces lignes directrices ont donné lieu à toute une jurisprudence anglaise, française, américaine, suisse. N'oublions pas que la loi allemande précise bien « le droit d'asile sera accordé si l'extradition exposée la personne poursuivie à des dangers corporels ou à une limitation de sa liberté personnelle. N'oublions pas que la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne posait le principe qu'on devait accorder le droit d'asile à tout étranger qui ne peut pas continuer à vivre dans son pays parce que le système politique l'y priverait de sa liberté, de sa vie ou de ses biens. Dans le face-à-face de Croissant, la semaine dernière avec les juges français, puisque ce sont là encore les juges français hein, qui décident de oui ou non, est-ce qu'on extrade ? Comme dans les mesures d'exception prises en Allemagne, ou dans l'actuel projet d'une convention antiterroriste, était en jeu ce qui en fait de liberté. On veut revenir à une restriction du droit d'asile politique qui rappelle la lutte contre les anarchistes. Grosse parenthèse, quand on travaille sur la répression de l'anarchisme à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on comprend beaucoup de choses sur ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Dépolitisation du militantisme, répression par l'association de malfaiteurs, etc. Donc là, il y a toute une tradition vraiment de criminalisation des mouvements sociaux qu'on pourrait faire remonter à la répression de l'anarchisme. Donc c'est dire hein, que ça remonte. Et il finit. On veut inverser la ligne de pente d'une pratique générale qui a permis depuis des années d'abriter l'indispensable émigration politique. Non seulement celle des hommes qui vont au pouvoir ou en viennent, mais celle des hommes qui s'en détournent par les chemins qu'ils peuvent trouver. Alors pourquoi je vous ai lu ce texte, et j'espère ne pas être trop longue, parce que Michel Foucault dit plusieurs choses importantes. D'une part, il explique que, bon, effectivement, on pourrait remonter à la répression de l'anarchisme pour comprendre ce qui se joue, mais surtout qu'il y a une dépolitisation en Europe, en Allemagne, mais aussi en Europe, des crimes et des délits politiques qui va faciliter les extraditions. C'est quoi dépolitiser des crimes et des délits politiques ? C'est très simple. Quand vous manifestez, que vous êtes arrêté pour des violences, eh ben, vous n'avez plus manifesté, vous avez simplement cassé. Vous avez abîmé un abribus. Ne plus dire que vous avez agi pour des motivations politiques, mais dire que vous avez agi pour des motifs vils. L'argent, la cupidité, la jalousie, la haine, que vous êtes animé d'une violence pure. C'est ça la dépolitisation. Et donc concrètement, ça veut dire que vous êtes inculpé d'associations de malfaiteurs, de port d'armes, parfois d'assassinats. Je pense à Angela Davis, hein, qui a été inculpée et poursuivie d'assassinat, qui n'est pas un crime politique, etc. C'est ça la dépolitisation. Et donc, si vous n'êtes pas accusé d'un crime politique, eh bien, vous pouvez être extradé. C'est ça le lien entre dépolitisation et extradition. Et en fait, Michel Foucault, il fait aussi référence à une convention qui est très importante, que je vous cite, qui est une convention européenne de 1977, qui s'appelle Convention européenne pour la répression du terrorisme. Du terrorisme, et pas du militantisme, et pas de la violence révolutionnaire, du terrorisme. Ça veut dire qu'à partir de la fin des années 70 en Europe, on considère que le militantisme et les violences révolutionnaires ou les violences radicales sont du terrorisme. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet aussi, évidemment, les extraditions. Donc, je ne veux pas être trop longue, mais juste pour vous dire qu'à partir de cette convention de 77, on va dire qu'il y a plein d'actes militants qui ne relèvent plus du délit politique et du crime politique et donc qui peuvent extrader, comme par exemple l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques. Ou bien, je vous cite, « tout acte de violence grave dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle des personnes, d'accord, ou dirigé contre les biens lorsqu'il a créé un danger pour les personnes. » Donc il y a une dépolitisation des violences politiques en Europe et une double atteinte à l'infraction politique et à la non-extradition. Et voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Et cette dépolitisation, tout ça, ça va aboutir donc à le fait que de plus en plus d'extraditions soient accordées. avec pour la France, vous le savez, la doctrine Mitterrand, je pense que vous la connaissez tous, qui est des années 80. Mitterrand avait dit « je n'extraderai pas les militants italiens, des brigades rouges ». Et ça, ça a duré pendant très longtemps, et c'était vraiment quelque chose qui faisait un peu l'honneur de la France, hein, disons-le. On n'extradait pas les militants italiens que l'Italie réclamait. Sauf que, petit à petit, les gouvernements français, notamment les gouvernements de droite, vont complètement remettre en cause cette demande, ce principe de la doctrine Mitterrand. Par exemple, hein, vous avez un réfugié italien qui s'appelle Paolo Persichetti, qui était journaliste et chargé de cours à l'université Paris 8, donc ma fac, qui a été remis aux autorités italiennes en 2002, alors qu'il vivait à Paris depuis 15 ans. Donc vous avez une extradition d'un militaire italien en 2002, ce qui est vraiment contraire à tout ce qui s'était fait en France. Hein. Et le garde des Sceaux français avait déclaré au garde des Sceaux italien qu'il ne se sentait plus de respecter la doctrine Mitterrand, et cette déclaration avait eu lieu un 11 septembre. 11 septembre 2001, faut-il y voir un lien? Je vous laisse répondre à la question. Et en fait, aujourd'hui, donc, il y a ce mandat d'arrêt européen qui est très dangereux, qui a été instauré en 2002, donc précisément l'année où ce réfugié italien a été extradé, et qui est en vigueur depuis 2004, et en fait qui remplace l'extradition. Quand on parle d'extradition en Europe aujourd'hui, on n'est pas bon. C'est le mandat européen qui n'a plus rien à voir avec l'extradition ou avec le principe de non-extradition. Pourquoi je vous dis que ça n'a rien à voir? Parce qu'en fait, ça permet à une autorité judiciaire d'un État de remettre à un autre État un individu qui est recherché. Mais, je vous cite, « avec un contrôle minimum et un délai accéléré ». Par exemple, le mandat d'arrêt européen, c'est 90 jours, alors que dans l'extradition, il n'y avait pas de délai. Donc on voit bien qu'on n'a pas le temps de s'organiser, de se mobiliser, en tout cas beaucoup moins. Et surtout, il n'y a plus de critères politiques. Que vous soyez un militant, pas un militant, etc., peu importe, ils s'en fichent complètement. Et les critères qui feraient qu'on n'est pas remis à un autre État, et bien aujourd'hui, c'est par exemple la prescription. Ce que vous avez commis, c'est prescrit. Ou alors, ce que vous avez fait, c'est amnistié. Sauf que, et je finis par là, aujourd'hui, il n'y a plus d'amnistie politique pour les militantes et les militants ou les individus en lutte. Essayez de me rappeler la dernière amnistie politique, par exemple en France, où des militantes ou des militants ont été amnistiés pour des faits qu'ils ont commis. Voilà, je finis.
Merci pour ce constat et cette conclusion pour le moins glaçante, disons-le clairement. Alors pour rester dans l'optimisme, je vais laisser Michel nous parler des dynamiques de l'extrême droite, notamment à travers son ouvrage. Michel, on t'écoute.
Merci. Merci. Pardon, vous m'entendez? Merci. C'est bon. Merci de l'invitation. Je suis moi aussi ravi d'être ici pour exprimer ma solidarité. En écoutant Vanessa, j'avais une impression étrange. C'est-à-dire que dans tout ce qu'elle a présenté, c'est au fond une critique de la dépolitisation. C'est une critique de la dépolitisation qui est habituellement associée à l'avènement de ce qu'on appelle l'ordre néolibéral dans les années 80. Ceci dit, tu le faisais remonter un petit peu plus haut, puisque tu parlais de Michel Foucault, de l'affaire Clause Croissant, donc des années 70, qui est peut-être, au fond, ce basculement vers la dépolitisation remonte un petit peu plus haut, mais il va devenir la norme à partir des années 80. Alors, la raison pour laquelle, je ne conteste rien de tout ça, évidemment, mais la raison pour laquelle ça me mettait dans une, comment dire, dans une position ou dans une humeur étrange, c'est que je me demande si on en est encore là. Bien sûr, on en est encore là du point de vue des extraditions. Ça ne change pas. Mais il me semble que dans l'extrême droitisation des pouvoirs en Europe et aux États-Unis des deux côtés de l'Atlantique, on assiste à une forme de repolitisation. Certes, pas celle que nous souhaiterions, mais il y a une repolitisation. Je me demande si ça va continuer, je veux dire, si la norme va continuer d'être celle-là, de transformer le militantisme en crime de droit commun. Je me demande si avec l'arrivée de plus en plus forte de l'extrême droite, d'une certaine façon, les militants ne vont pas recommencer à être traités comme des militants, ce qui n'améliorera aucunement leur sort et le traitement qui leur sera réservé, bien au contraire. Mais je pense que là, on est à un point de bascule. Et ce point de bascule, il s'agit, je pense, de l'analyser parce que il peut y avoir une certaine tendance. Bon, on assiste en France à la montée plus ou moins inexorable du Rassemblement national, mais on constate aussi que dans 6 ou 7 pays d'Union européenne déjà, il y a l'extrême droite au pouvoir, ou bien comme parti junior d'un gouvernement, voire comme le parti dominant, et c'est évidemment le cas de la Hongrie qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Mais c'est évidemment encore plus vrai et plus net avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et ça pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quelque chose a basculé ? Ou est-ce qu'au fond, c'est juste le néolibéralisme tel qu'il a toujours été et qui deviendrait de plus en plus autoritaire, ce serait sa pente naturelle. Et donc, il me semble qu'il y a deux propensions dont il faudrait peut-être se méfier. La première, qui serait celle, je dirais, des libéraux au sens politique, qui eux voient bien, qui veulent bien marquer la différence entre eux et l'extrême droite qui est en train d'arriver au pouvoir, mais de manière libérale, c'est-à-dire de montrer que ce qu'ils font, ce sont des populistes qui rompent avec l'ordre libéral tel qu'il a existé et tel qu'il devrait continuer à exister et qu'il s'agit donc de défendre. Donc, quand, par exemple, quand Kamala Harris et Joe Biden osent le mot « Trump est un fasciste », ça les fait un peu trembler quand ils le disent, mais ils le disent. Mais après ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est un fasciste. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il remet en question l'internationalisme libéral. Donc, effectivement, si on est plus à gauche qu'un libéral, voire même si on est un libéral de gauche, on va peut-être se méfier de cette propension-là. Mais il y a une autre propension à gauche qui vient du fait que, depuis maintenant longtemps, après avoir pris le train souvent en marche assez tard, la gauche s'est coltinée à l'étude, à la critique, à l'analyse du néolibéralisme. Donc on est au fond attaché à ses ennemis traditionnels, parce qu'on a appris à les comprendre, on a appris à les critiquer, on a appris à les fustiger. Et donc il y a une petite propension à minimiser la nouveauté de ce qui est en train d'arriver. Beaucoup de gens à gauche, aux États-Unis en particulier, expliquent que bon, Trump, ça ne va pas changer grand-chose. C'était déjà tellement catastrophique. Pensez à ce que Biden faisait par rapport à la Palestine en particulier, mais pas seulement. Pensez à ses revirements sur les questions de politique des frontières et d'immigration. Pensez à ses abandons sur les questions environnementales. Au fond, il n'y a pas de grosse différence. Et je pense qu'il y a là un problème symétrique. Je pense qu'il s'agit de penser ce qui nous arrive comme quelque chose de nouveau, parce que je pense que comprendre la nouveauté de la chose est important pour savoir comment y résister, pour savoir quel type d'alliance on peut faire, sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter, sur qui on pourrait compter, sur qui, pour autant qu'on parvienne à les persuader, et sur qui on ne peut décidément pas compter. Donc je crois que ça, c'est des questions qu'il faut se poser à neuf. Alors cette longue introduction, c'est pour justifier ma présence et pour justifier ce à quoi je me suis intéressé dans le livre que tu as cité, qui s'appelle donc « Producteur et parasite », et le sous-titre... dit le propos, puisque le sous-titre, c'est « L'imaginaire si désirable du Rassemblement national ». En effet, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'était qu'est-ce qui fait l'attractivité de l'extrême droite. parce que là aussi, c'est un petit malaise que j'avais par rapport à la critique de gauche, qui voyait la montée de l'extrême droite comme un phénomène purement réactif. C'était la faute des réformes néolibérales qui avaient corrodé les solidarités ouvrières. C'était la faute d'un monde médiatique vendu à l'extrême droite, ou en tout cas prêt à en profiter. C'était la faute de partis de droite qui reprenaient les thèmes et la rhétorique, voire même les mesures de l'extrême droite pour essayer de lutter contre elle. C'était la faute de la gauche, en particulier du Parti socialiste, qui avait abandonné les classes populaires. Bref, toute une série de choses parfaitement exactes, par ailleurs, mais qui me semblait faire l'impasse sur un point essentiel qui est pourquoi tellement de gens, en France quand même, 13 millions de gens ont donné leur voix à Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle de 2022, pourquoi est-ce que tellement de gens vont là ? Qu'est-ce qu'il y a d'attractif là-dedans ? Et de dire que c'est juste la colère et que la colère rend aveugle me semblait faux et court. Je pense qu'il y a une véritable attractivité de l'extrême droite. Alors, moi, je me suis concentré sur l'attractivité du Rassemblement national et je vous donne très rapidement la formule que je proposais comme étant l'explication de cette attractivité, et je la fondais sur une certaine vision de la lutte des classes promue par l'extrême droite. Alors, ce n'est pas la lutte des classes telle que à gauche on l'entend, ce n'est pas une opposition entre le capital et le travail, mais c'est l'opposition entre deux catégories de population qui sont d'une certaine façon des types moraux, chacun d'eux, qui seraient les producteurs d'un côté, les parasites de l'autre. Alors les producteurs, c'est les gens qui bossent, et les gens qui veulent, parce qu'ils bossent, pouvoir jouir légitimement du produit de leur travail. Et ces gens-là vivraient heureux s'ils n'étaient pas exposés aux prédations de parasites, qui, eux, ne bossent pas, ou en tout cas ne font rien d'utile, mais qui sont, en revanche, passés maîtres dans l'art d'accaparer les richesses produites par les producteurs. Et ces parasites, il y en a toujours deux catégories. Il y a des parasites d'en haut. Combien de temps encore ? Il y a des parasites d'en haut et des parasites d'en bas. Les parasites d'en haut, ils ne sont pas dans la production, mais ils sont dans la circulation du capital. La circulation du capital financier, ce sont des prêteurs, des usuriers, des spéculateurs, mais aussi dans la circulation du capital culturel. Des intellectuels, en gros, qui ne font rien d'utile, comme on sait, mais qui sont passés maîtres dans l'art d'entourlouper le bon peuple et les producteurs. Bien. Et puis, il y a les parasites d'en bas, évidemment, ce sont les assistés qui ne font rien, souvent étrangers par ailleurs, qui ne font rien et qui vivent de la redistribution de revenus qu'ils n'ont pas contribué à produire. Et ça, cette vision du monde-là, cette vision du monde qui fait du peuple non pas la base d'une pyramide, mais un espèce de bloc central menacé par des parasites d'en haut et des parasites d'en bas, lesquels sont d'ailleurs toujours un petit peu étrangers, puisque les financiers vivent dans le monde interlope de la finance internationale, les intellectuels vivent dans cette espèce d'intelligentsia cosmopolite qui n'est pas de chez nous, les assistés sont bien souvent des travailleurs immigrés, ou alors d'origine étrangère, ou alors ayant côtoyé tellement les étrangers qu'ils ont copié leurs mœurs prédatrices. Et cette vision-là, elle est extrêmement gratifiante, parce que ça permet de dire que les gens bien, c'est des gens qui bossent, des gens qui sont méritants, et des gens qui, en plus, tirent leur mérite du fait qu'ils sont de chez nous. C'est dans leur culture, c'est dans notre culture qu'ils ont puisé cette valeur travail à laquelle ils sont tellement attachés, alors que les parasites, qu'ils soient d'en haut ou d'en bas, sont toujours un petit peu étrangers. Et le grand avantage de cette vision du monde, c'est que ça permet aux partis d'extrême droite de promettre que les choses vont s'améliorer sans que les gens à qui ils s'adressent, les bons producteurs, n'aient rien à changer à leurs habitudes. C'est-à-dire que si vous êtes un libéral, vous dites aux gens, si vous voulez que les choses s'améliorent, il faut que chacun se prenne en main. Il faut cesser de compter sur l'État, cesser de compter sur l'État social, sur la redistribution, sur les solidarités. Si vous êtes de gauche, vous dites, si vous voulez que les choses s'améliorent, eh bien, il faut plus de solidarité, il faut plus de redistribution, voire même, il faut une réappropriation des modes de du mode de production, des produits, des outils de production. Dans les deux cas, l'amélioration est liée à une espèce de changement de conduite de tout le monde. Alors que l'extrême droite a, elle, cet immense avantage de dire à ses électeurs, avec nous, les choses vont s'améliorer, et vous, à qui je m'adresse, vous n'aurez rien à changer, parce qu'il suffit qu'on vous débarrasse de ces parasites d'en haut et de ces parasites d'en bas, et sans que vous n'ayez rien à changer à vos comportements, les choses vont s'améliorer. Alors, cet imaginaire-là me semble particulièrement puissant. Après tout, dire que les choses vont s'améliorer sans qu'on ait à faire d'efforts, c'est quand même assez attirant. Et ça pose un dilemme terrible aux autres partis, aux autres forces politiques, dans la mesure où, si on essaye d'aller sur leur terrain, on est toujours perdant, parce qu'ils font ça beaucoup mieux que les libéraux ou que la gauche, puisque quand on est de gauche et qu'on a une petite dignité, on ne va pas aller chasser les parasites d'en bas. Et quand on est un libéral, on n'est pas spontanément porté à aller dénoncer les parasites d'en haut. Alors qu'à l'extrême droite, eux, ils ont leurs deux boucs émissaires, et ça marche quand même beaucoup mieux. Mais ceci dit, si on décide, qu'on soit d'ailleurs libéral ou de gauche, si on décide de ne pas aller sur leur terrain, ben alors on est en déficit et on doit assumer qu'on est minoritaire. Et cet aspect minoritaire est problématique pour la gauche parce qu'il devient de moins en moins problématique pour la droite. C'est ça qui est en train d'arriver en Europe en tout cas, qui est l'idée que la droite semble avoir compris qu'elle ne volera pas d'électeurs au parti d'extrême droite et que par conséquent, la seule possibilité pour elle pour rester au pouvoir, c'est de s'allier avec eux. Et donc on a effectivement une espèce d'alliance généralisée de la droite et de l'extrême droite qui est en train de s'étendre en Europe. Et ça, ça pose la question à gauche, que l'on soit d'une gauche molle et modérée, mais néanmoins avec certaines valeurs, si on peut le dire comme ça, ou que l'on soit du côté de la gauche radicale, où on a quand même affaire à un pouvoir qui de plus en plus ne cherche plus à se masquer, ne cherche plus à se faire passer pour plus libéral qu'il ne l'est. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les solidarités ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les manières de réagir ? Bon, je vais peut-être m'en arrêter là.
Alors c'est incroyable, vous avez parlé exactement à la minute près le même temps. C'est assez rare. Avant de prendre des questions du public et celles qui ont été rédigées par le comité, est-ce que vous voulez déjà réagir l'une et l'un à l'autre à ce qui a été dit, à ce qui a été dit ?
Merci. Michel, tu disais que j'avais insisté sur la dépolitisation et que peut-être il y aurait un phénomène de repolitisation. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une dépolitisation des passages à l'acte des militantes et des militants, ou des individus en lutte, ou des groupes en lutte, et qu'il y a de ce fait une dépolitisation de la répression. La répression, officiellement, elle n'est plus politique. Un militant qui est réprimé, il est réprimé comme un délinquant ou un criminel, il va au tribunal correctionnel, il passe en comparution immédiate, ou s'il fait des choses qui sont considérées comme très graves, il va en cour d'assises. La question que je me suis posée dans certains de mes travaux, j'écris aussi, et notamment dans un petit livre qui s'appelait « Répression », c'était « Est-ce qu'il faudrait que nous réclamions, nous toutes et tous, que les crimes et les délits politiques soient réinstaurés » C'est-à-dire, je suis une militante, je suis réprimée, est-ce que j'ai envie que ce dont on m'accuse soit un crime ou un délit politique ? Et tu disais « ça va peut-être arriver », c'est-à-dire que des militants vont être traités comme des militants quand ils vont être réprimés. C'est intéressant et ce serait important, mais il y a un débat. Je vous le dis tout de suite, le dilemme. Si un jour, un militante ou une militant est réprimé comme un militant ou un militant, ça veut dire que les pouvoirs publics, l'État, les gouvernements, les juges vont considérer que ce qu'il a fait, c'est politique. Mais est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui, dans l'état actuel de la société, du monde, de l'appareil répressif, qu'on serait moins réprimé ? La réponse est non. Ce qui se passerait, c'est positif, on serait reconnu comme ayant des motivations politiques, mais certainement réprimé par l'exception, par des tribunaux d'exception, par exemple. Je passe très vite, mais si ça vous intéresse, je pourrais revenir dessus. J'ai beaucoup travaillé sur la répression du militantisme par l'exception, et notamment j'ai beaucoup travaillé sur la répression de l'extrême-gauche, l'extrême-droite et les indépendantistes, et le gauchisme, par un tribunal d'exception qui a duré pendant 18 ans et qui a inculpé 3600 personnes de actions directes en passant par le FLNC, le TA et les Mao. Ce que je peux vous dire très vite, c'est que si vous êtes considéré comme un militant, vous avez des avantages. Vous pouviez à l'époque, donc de 63 à 81, avoir des avantages. Statut de prisonnier politique, amnistie politique, vous pouviez vous défendre politiquement au tribunal. Pendant 3 heures, vous pouviez exposer vos motivations, vos luttes, vos causes, ce que vous vouliez. En revanche, vous étiez jugé par des militaires de carrière, donc par l'armée. Vous aviez des gardes à vue qui pouvaient durer 72 heures, voire 15 jours. Vous étiez soumis à des examens psychiatriques. Enfin, je veux dire la totale. C'est-à-dire qu'on ne vous donne rien. Si vous êtes reconnu comme des militants, vous êtes très réprimé. Enfin, il y a vraiment un dilemme. Et en fait, depuis quand est-ce qu'on considère en France qu'un militant n'est plus un militant ? C'est depuis Badinter. On ne le sait pas, mais en fait, c'est la gauche qui a participé en France à la dépolitisation du militantisme et de la répression, puisque Badinter a dit « Tout le monde doit être traité de la même manière. Un bandit, un voleur, un terroriste et un militant. » Et à partir de là, plus de tribunal spécial pour les militants, plus de prisonniers politiques, plus d'amnistie politique, quasiment plus rien. Donc, au nom de la justice, de droit commun, au nom de l'équité, au nom de l'égalité entre les justiciables, au nom de la fin de l'exception... Eh bien, on a dépolitisé l'appareil répressif et considéré que des militants étaient des criminels ou des délinquants. Voilà, je voulais te répondre. Donc, oui, ça pourrait arriver, mais ça veut dire que les militantes et militants seraient encore plus réprimés. Voilà.
Oui, non, c'était exactement ça que je voulais dire. Et juste pour ajouter ça, avec quand même ce qui est en train de poindre avec l'impulsion donnée par Donald Trump, c'est que la notion même que nous, à gauche, aimons tellement critiquer et qui suscite nos ricanements d'un droit international, là, ils sont en train de le remettre en question. On est en train d'assister à l'avènement d'un monde, je dirais, schmittien, à partir de Carl Schmitt, l'affreux fucking Carl Schmitt, mais affreux qui a quand même beaucoup fasciné pas mal de gens à gauche, ce qu'il faisait précisément, et pourquoi il fascinait à gauche, parce qu'il était un des plus puissants théoriciens de l'anti-libéralisme, c'est-à-dire de montrer le caractère factice et hypocrite de l'ordre libéral, de cette espèce d'universalisme qui justement avait pour fonction de dépolitiser, puisqu'il substituait à ce qui devrait être la bonne relation entre les États, qui est un rapport d'amis ou d'ennemis, il lui substituait l'idée que, au fond, nous étions tous dans un monde pacifié par le doux commerce, et que donc ceux qui n'étaient pas pacifiques étaient des bandits, étaient des terroristes, étaient des pirates. Et précisément, c'est dans la disparition, dans l'effritement de cet ordre libéral, et un effritement aux États-Unis de plus en plus assumé. Si vous lisez ce fascicule énorme de 900 pages qui s'appelle le projet 2025 et qui a été fait par la Heritage Foundation et qui est donc le bréviaire dont va s'inspirer, non pas Donald Trump lui-même parce qu'il ne lit pas, donc 900 pages, il y a peu de chance, mais... ni deux pages, oui. Mais il y a des gens qui lisent, qui peuvent lire des morceaux et qui sont à côté de lui. On va assister à une corrosion assez rapide et parfaitement pensée de cet ordre libéral international. Donc pour les gens qui étaient un petit peu, et j'en suis, ironiques et cyniques par rapport aux promesses de cet ordre libéral international, ça pose des questions sur comment on se positionne.
Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut réagir à ce qui a été dit ? Eh ben on va vous lire des questions qui ont été rédigées par le comité, puis ensuite on prendra des séries de questions par deux ou trois en essayant de respecter la parité. Voilà.
Merci beaucoup pour vos interventions. Michel, j'avais une question pour toi. Dans un entretien que tu as fait récemment, tu parles d'un front antifasciste. Et je voulais savoir, par rapport à ça, aujourd'hui, comment tu le considérais actuellement, au vu de ton dernier ouvrage, et dans quelle mesure il peut être une solution viable ?
C'est un faux. L'antifascisme dont je parle est infiniment plus mou et plus édulcoré que celui de certains et certaines d'entre vous, puisque, au fond, ce à quoi je faisais référence au départ, c'était qu'est-ce qui a fait que, au début du mois de juillet dernier, contre toute attente, la gauche n'a certes pas gagné, mais elle est arrivée en tête, alors que on s'attendait à une victoire du Rassemblement national et à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national sous la protection d'Emmanuel Macron. Il me semble que pendant quelques jours, la gauche, même la plus modérée, pensez à Olivier Faure, le secrétaire général du Parti socialiste, s'est découverte ou redécouverte antifasciste. Alors, antifasciste, qu'est-ce que ça voulait dire ? Non, il n'allait pas manifester, il n'allait pas se lancer dans des actions révolutionnaires, tant s'en faut. Mais antifasciste, ça voulait dire qu'il prenait la mesure qu'il y avait quelque chose comme un néofascisme qui était sur le point d'arriver. Et qu'il arrivait par le biais du Rassemblement national, voire même par ses franges encore plus extrêmes du côté de Zemmour, qu'il arrivait par le biais de la complaisance qui devenait de plus en plus de la collaboration et de la complicité d'une grosse partie de la droite, et que donc il y avait là quelque chose quand même qui interpellait, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui impliquait une réaction. Alors cet antifascisme en pointillé, ça fait pas un programme politique, ça fait certainement pas un programme révolutionnaire, mais il me semble que ça fait quoi ? Ça fait, je dirais, une forme d'éthos, de manière d'être, de manière de vivre, qui aiguise les allergies à toutes les formes de fascisme, que ce soit dans les rapports de classe, dans les rapports de genre, dans les questions de sexualité, évidemment dans les questions de race et de racisme aussi. Et ça me semble être, mais je suis un bourgeois modéré, moi, ça me semble être, non pas un programme, encore une fois, mais être cette espèce de noyau, je dirais de noyau éthique, de, au sens de manière de conduite, qui doit être, à mon avis, le fil conducteur de ce qui peut résister à ce qui vient. C'est-à-dire, ça ne signifie pas nécessairement une radicalité absolue, ça ne signifie pas, à l'inverse, une forme de modération pour pouvoir ratisser large et pouvoir accueillir tous les bourgeois dans mon genre, mais ça signifie une forme d'intransigeance. D'intransigeance par rapport à tout ce qui fait ces propensions fascistes qui sont en train de non seulement de voir le jour, mais de s'assumer comme telles.
que tu as une autre question à poser? Ouais, il y en a plusieurs, mais peut-être qu'on va les sélectionner après, donner la parole au public.
Vous parlez aussi, tu parles aussi, pardon, Michel, de tout ce qu'on, un peu ce qu'on voit à l'œuvre en Russie, notamment avec l'invasion de l'Ukraine, et en Israël également, quand tu parles de droitisation globale et que tu parles également du coup d'épuration, je cite, et de déportation de tous les parasites improductifs. Qu'est-ce qu'il y a en commun là-dedans par rapport à ces deux endroits qui le subissent?
Ben oui, il me semble que précisément, enfin, c'est une des choses qui m'a toujours senti, qui était les plus frustrantes m'intéressant aux questions internationales depuis 2-3 ans, c'était le fait que beaucoup de gens qui avaient, et combien raison, s'indignaient du génocide en cours à Gaza et en Palestine, étaient beaucoup plus tempérés par rapport à ce qui se passait en Ukraine. Et inversement, nombre de libéraux antitotalitaires qui retrouvaient leurs accents de jeunesse en s'en prenant à Poutine et en défendant l'Ukraine étaient tout prêts à, sinon à pardonner, sinon à soutenir ce que faisait Israël, mais ne prenaient pas la mesure ou refusaient de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Or, il me semble que précisément, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe, si effectivement on est dans l'avènement de ce monde schmittien, comme je disais, c'est-à-dire Schmitt avait cette idée de grands espaces, ce qu'il appelait les grands espaces, Großraum. Les grands espaces, c'était l'idée que le monde, le mieux organisé possible, c'était un monde qui était livré à une espèce de coexistence de potentats à qui on accordait le droit de disposer des peuples dans leur orbite. Et que il pouvait certes y avoir de la tension à la frontière entre ces grands espaces, mais qu'en gros, il y avait un côté homéostatique dans le fait que des présidents de Reich de grands espaces tenaient leur région. Or, il me semble que c'est ce qu'on voit émerger. C'est ce qu'on voit émerger avec Trump aux États-Unis, c'est ce qu'on voit émerger avec Poutine en Russie, avec Erdogan en Turquie, avec Modi en Inde, etc., etc. Et avec des grosses Roms plus petits du côté d'Israël pour le Moyen-Orient, du côté de la Hongrie en Europe, etc., etc. Donc on est dans ce monde-là. Et ce monde-là, avec aussi cette chose qui me semble essentielle, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids gouvernementaux. On serait bien en peine de trouver des gouvernements qui font le contrepoids à ce qu'ont de commun Trump, Xi Jinping, Erdogan, Poutine, etc. Donc, la résistance, elle ne peut se jouer que dans des interstices. Et donc la moindre des choses, c'est que tous les gens qui se trouvent dans les interstices, d'une part, mais tous les gens qui éprouvent de la solidarité pour ceux qui se trouvent dans ces interstices, se rassemblent et essayent de former des solidarités et un mouvement de ce côté-là.